France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Filmer ce qui n'a pas été filmé. C'était ça son ambition et pourtant, en se levant le matin, il se disait « Je suis fou. Je suis fou de faire ça. » Et ça est devenu un grand film sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bonjour à tous.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille, pris dans l'engrenage de la collaboration. Derrière ce pitch lapidaire, des années de réflexion, de documentation, de questionnement. Bonjour Xavier Giannoli.
Bonjour.
Et à l'arrivée, ce film, le vôtre, les rayons et les ombres et ce souci constant de filmer une vérité historique et d'en même temps refléter la complexité des âmes, dites-vous. Pour la vérité historique, nous avons deux experts ce matin. Bonjour Pascal Auris.
Bonjour madame.
Académicien, notre premier académicien et professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Et bonjour Jean-Pierre Bertin-Maguitz.
Bonjour.
Historien. Un professeur émérite, vous aussi, en études cinématographiques à la Sorbonne également, Les rayons et les ombres, avec Jean Dujardin, Nastia Golubeva et Auguste Dill sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties de la semaine dans le désordre d'un orphelin, des planètes, un testament, un crime et Lucini. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Mais qu'est-ce que tu as ?
Robert. Je vais être franche avec toi. L'année dernière, dans la neige, est morte une autre Claire. Tu as à peine eu le temps d'apercevoir. Je ne voudrais pas qu'il y ait entre nous le cadavre de cette autre Claire. Je vais te parler d'elle comme d'une amie que j'ai perdue. Tu veux bien ?
Oui.
Elle a été très malheureuse, votre Claire. Elle a rencontré un jeune homme. Elle a cru l'aimer. Elle s'est trompée.
Au départ, Xavier Giannoli, une obsession, Corinne Luchaire, son jeu si moderne, une jeune star trop jeune précipitée dans ce moment noir de l'histoire, la collaboration, et puis il s'intéressait à son père, Jean Luchaire, journaliste devenu collabo et arrivé enfin à Otto Abetz, l'ami allemand, et à l'arrivée les films, Les rayons et les ombres, pour filmer un sujet très incorrect qu'il fallait raconter correctement.
Oui. Correctement, je ne sais pas.
Précisément.
Oui. Oui, c'est un sujet qui brûle, inflammable, scandaleux.
Oui.
Effectivement, je me disais pendant toute l'écriture avec mon ami Fieschi, mais mon Dieu, on est en train de s'aventurer sur un terrain inflammable, qui est d'ailleurs en ce moment percuté par l'actualité. Je ne m'y attendais pas à ce point-là. Et il y a cette idée du cinéma comme une aventure à la fois esthétique et morale. Qui est que la caméra se retrouve face à ces personnages qui se sont corrompus gravement et il faut trouver le bon axe, la bonne distance. Et cette aventure absolument bouleversante et extraordinaire de ce père et sa fille pendant la collaboration, je me suis dit ça va être une aventure de cinéma inédite, prenons le risque. Et Dujardin me poussait tout le temps en me disant allons au bout, n'ayons pas peur.
Titre inspiré de Victor Hugo, tout homme sur terre a deux faces, le bien et le mal, blâmer tout, c'est ne comprendre rien. Le cinéma n'est pas uniquement de la rigueur historique, bien sûr, mais je le disais, je vous citais, refléter la complexité des âmes. Bref, faire du cinéma avec ça, c'est ça l'enjeu aussi, faire du cinéma avec cette histoire-là.
Oui, ce qui pose une question, là où j'en étais dans ma vie de cinéaste importante, qui est cette tension entre l'éthique et l'esthétique. C'est une star, qui est Jean Dujardin, qui joue l'histoire d'un homme qui est devenu un salaud et qui pourtant n'en était pas un. Il n'est pas question de réhabiliter, il n'est pas question d'embrayer une émotion malsaine. Il fallait trouver une certaine qualité de regard, d'empathie, d'émotion, et en même temps rendre sa dignité à cette figure lumineuse, tragique et sublime, qui est pour moi, qui est Corinne Luchaire, cette jeune actrice des années 30.
Question à nos deux historiens, Pascal Auris et Jean-Pierre Bertin-Maguitz. Il y a eu des livres, il y a eu des documents, des thèses. Mais finalement, rien ne remplace la force du cinéma.
Absolument, surtout quand on sort de la projection. Et je pense que comme moi, après tout, je pouvais multiplier les remarques pointillistes. Non, c'est remarquable parce que ça touche à des questions fondamentale, en particulier cette ambiguïté morale,
oui.
qui est quand même un des fils rouges de l'œuvre de Xavier Giannoli, comme l'imposture, etc.
On peut le dire.
Et oui. dans le cas de Lucher, rappeler qu'une des voies d'accès, pas si minoritaire que ça, pas majoritaire non plus, vers la collaboration, c'était le pacifisme, donc la gauche.
Pacifisme ça, d'avant-guerre.
Du lendemain de 14-18.
Oui.
Et franchement, le grand argument en faveur du pacifisme, c'était les monuments aux morts. Plus jamais
plus
ça.
Jamais ça.
Et alors, évidemment, Lucher fait partie d'une sorte d'avant-garde qui va plus loin et qui tend la main à l'ennemi d'hier. Et dans son journal de l'entre-deux-guerres, pas le journal de Collabo, il a Pierre Mendès-France, Pierre Brossolette qui aujourd'hui dort au Panthéon.
Oui.
Et il a aussi de futurs Collabos.
Jean-Pierre Bertin-Maguitte, pareillement, très important. D'autant que cette période très sombre n'a pratiquement été jamais abordée au cinéma.
Oui, il y a eu quelques films, quand
très
même.
Peu.
Très peu. Non, moi, ce qui m'a...
De ce côté-là, en plus, et dans ce Paris somptuaire.
Oui, mais ce qui m'a intéressé, c'est la phrase, c'est la question que pose Léonid Mogy à la fin du film, à Corinne Lucher. Est-ce que tu as cherché à savoir ?
Oui.
Et je dois dire que ça m'a renvoyé tout à fait à tout ce que j'ai pu lire et écouté comme récit de, par mon père, qui était directeur de restaurant au Palace Le Rhul à Nice, et qui m'a raconté durant toute mon enfance comment vivaient ces gens de cinéma. Et j'ai compris 25 ans après que finalement, si j'avais travaillé sur cette période-là, c'est certainement à cause de, enfin grâce à ce que m'a raconté mon père. Et donc, ces acteurs, ils étaient dans une bulle.
Ils sont hors sol.
Hors sol, dans une insouciance totale.
Oui.
Mais Corinne Lucher a trouvé le rempart de son père pour ne pas se poser la question, pour être dans un déni total de ce qui se passait.
On va écouter un dialogue entre Lucher et Auguste Dill, à Betz, donc, à mi-chemin presque.
L'ennemi aujourd'hui, c'est le communisme russe, pas l'Allemagne. L'Allemagne, c'est encore l'Europe, c'est l'Occident.
Je crois qu'il faut, maintenir le dialogue avec Hitler. Continuer à négocier, à discuter.
Il faut éviter l'escalade aussi. Il faut faire des concessions.
Voilà. Trouver des points d'entente.
Croyez-vous vraiment que les autres démocraties ont des leçons à nous donner ? Alors qu'il y a en Amérique des endroits où les Noirs ne peuvent pas monter dans les mêmes autobus que les Blancs, que ces mêmes Américains ont massacré des centaines de milliers d'Indiens pour avoir un espace vital, alors qu'en France, on a tranché des têtes pendant la terreur, sans parler des massacres de la Révolution d'Octobre en Russie.
Chaque révolution a ses excès et ses horreurs, c'est malheureux, mais c'est une réalité historique.
Mais il n'y aura pas des grands projets européens sans une Allemagne forte et en sécurité.
Ces dialogues-là, on ne les invente pas, Xavier Giannoli, on les a lus, vous les réinterprétez à votre façon.
On les a lus chez Pascal Horry, par exemple.
Oui.
rapide parenthèse, c'est très intimidant pour moi d'avoir écrit avec Jacques Fieschi, évidemment, et les livres de Pascal Horry. Et je me disais, mon Dieu, un jour, une telle sommité verra mon film, j'espère que ça se passera bien. Mais je veux rendre hommage, évidemment, à Pascal et à beaucoup d'historiens dont les livres ont été extraordinairement précieux pour moi, pour écrire.
La question cruciale, comment se sont-ils laissés contaminer par la propagande nazie ? La frontière entre, c'est la même question, la frontière entre complicité passive et collaboration active. À quel moment un compromis devient une compromission ? C'est une unique question. Presque.
C'est toute la question, et comme disait un de mes personnages dans L'illusion perdue, la compromission est de toutes les époques. Vous ne croyez pas. Jean Lucher, c'est un radical socialiste, il vient d'une gauche humaniste et pacifiste. Il est ami avec Pierre Brossolette, avec Mendès-France, avec tous ces gens, et il va petit à petit glisser vers les idées d'extrême droite les plus nauséabondes et les plus dangereuses. Ce n'est pas un idéologue, et les ressorts de cette compromission, c'est là que le cinéma commence. Est-ce que c'est un aveuglement, un déni, un intérêt, l'argent, les femmes, ces facteurs humains, ces facteurs sociaux, la vanité sociale? Qu'est-ce qui fait que quand rien ne vous dispose à avoir ce funeste destin, on se laisse avoir?
Pourtant, j'ai lu dans le livre de Cédric Melletta que c'était beaucoup l'argent, parce qu'il avait vécu assez pauvrement l'entre-deux-guerres avec ses quatre enfants, et qu'il voulait se venger presque de ça.
Oui, mais les problèmes d'argent ne peuvent jamais être une raison pour laquelle on pactise avec le pire. Voilà.
Moi, je veux dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme chez Luchaire.
Alors c'est...
Mais il y a peut-être de l'anticommunisme.
Mais il Pascal Horry fera une réponse plus intelligente que moi sur l'anticommunisme. sur l'antisémitisme, il y a un livre très important qui s'appelle « Les nouveaux temps », le titre de son journal, ou « L'idéologie de la collaboration », écrit par Claude Lévy, qui était un historien qui a écrit sur la rafle du Veldiv. Et il a regardé tous les numéros qu'il avait des nouveaux temps. Et non seulement Jean Luchaire n'est pas viscéralement un antisémite, sa belle-mère est juive, il est même plutôt philosémite. Et il va pourtant par opportunisme, sous pression, par lâcheté, manipuler l'idéologie, je ne sais pas si c'est une idéologie, en tout cas l'antisémitisme. Et donc pour moi, ça, je suis très très touché avec l'actualité. Je me suis dit, ce poison-là, même si on sait qu'il continue à circuler, le monstre ne peut pas se réveiller. Et je ne pouvais pas m'attendre au moment où sort ce film que le débat politique s'articule autour de l'antisémitisme, du fascisme et du nazisme. Donc la façon dont des hommes de presse, de médias, peuvent se compromettre avec toutes ces idées, quels sont les ressorts de cette compromission, je me disais, très bien, le destin de Jean Luchaire frappe juste.
Il y a une phrase qui est passionnante dans le film, je l'ai notée. Le vrai pouvoir d'un journaliste n'est pas ce qu'il écrit, mais ce qu'il n'écrit pas.
Oui, c'est le contraire d'un historien. Alors. Mais vous savez, je crois que c'est Pascal qui m'avait dit cette phrase, comme ça, comme un trait d'esprit dont il est coutumier, où je disais, je veux pouvoir vous poser des questions, on ne me pardonnera pas si je dis le moindre mensonge, et il m'a répondu, vous avez raison, et peut-être qu'on vous ne pardonnera pas si vous dites la vérité. Voilà. Sachant que lui, il a dit la vérité, les historiens comme lui ont ouvert le livre noir de Vichy, de la compromission de l'État français et de certains Français. Donc, voilà.
Et notamment le rôle de la presse, donc, Pascal Horry.
Tout à fait, parce que les nazis ont très bien compris qu'il fallait contrôler la presse bien intelligemment. Sûr. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans d'occupation, ils avaient réussi à constituer non seulement des empires de presse, et Luchet en faisait partie, avec de l'argent allemand plus ou moins directement, mais c'est même pas ça le plus important. Tous les publics étaient visés. L'humanité qui avait tenté de reparaître, hein, d'ailleurs, en 40, il faut le dire au passage. Ouais. L'humanité ne pouvait plus reparaître. Ben, on a trouvé un journal qui s'appelait La France au travail, c'était l'humanité. Le Canard enchaîné, impossible. Eh bien, il y a un journal qui s'appelle le Mérinos, les épicés. Donc, les Allemands étaient très, très, très malins. Et je me rappelle qu'une de mes découvertes, quand j'allais dans les archives, de mon père, qui était donc grand reporter, c'est le journal en question, qui est le futur Ouest France. Et on se rendait compte que, jusqu'à l'arrivée des Allemands, il y avait le communiqué militaire français, au milieu, et il y avait les blancs de la censure. C'est-à-dire que la censure, ça crevait les yeux. Quand les Allemands arrivent, il n'y a plus de blanc. Ils ont un génie de la propagande extraordinaire.
Dans le film, le père de Jean Luchaire lui écrit une lettre via le Figaro. Donc le Figaro était plutôt pas compromis.
Ça, moi, je ne suis pas historien et c'est raconté par Corinne Luchaire qui dit « Je vais sans doute faire des erreurs et me tromper sur les dates. » Puisque c'est une jeune fille sensible, c'est pas une historienne et c'est son point de vue sur l'histoire. Cette lettre, elle a existé, mais elle était plus tôt. De la même façon que le personnage inspiré par Pierre Brossolette, je ne lui ai pas donné son nom par respect pour cette figure... quasiment sainte, mythologique, et Brossolette avait quitté Luchaire au moment de la cession d'Hitler au pouvoir. Moi, c'est un peu plus tard. Mais ce genre de torsion, il est une façon d'exprimer la vérité du personnage, et surtout la lettre du père à Luchaire qui est terrifiante. Elle est dite par André Marcon génialement.
Oui.
Elle est surtout là pour montrer que Luchaire avait des contrepoints moraux autour de lui. Il n'a pas d'excuses. Il y avait des gens qui lui disaient « Mais tu es en train de verser dans le pire. » Et justement, ce qu'on observe dans le film, c'est comment on s'invente une façon d'esquiver toutes ces mises en garde.
Il y a de l'arrivisme aussi, comme dans votre film précédent.
C'est un personnage balzacien, d'ailleurs, ouais. Cédric Mélétal, qu'on peut avoir à Rubempré. Et pour vous le dire franchement, je ne suis pas sûr que mon, entre guillemets, Rubempré d'Illusion perdue, c'est plutôt celui de Balzac, mais celui de Rubempré, je ne suis pas sûr qu'il serait très bien comporté pendant l'occupation.
Une vraie question.
On ne sait jamais.
Bah, il passe des royalistes libéraux.
Oui, déjà au 19e.
Hein, oui.
Les grands écarts sont nombreux.
Ah bah oui, et d'ailleurs, Victor Hugo commence en étant royaliste.
Monarchiste, tout ça.
Monarchiste, et termine en étant une figure de la gauche.
Voilà, dire. On ouvre le Panthéon pour Victor Hugo.
D'où mon hommage dans le titre au destin de Victor Hugo.
Corinne, vous le disiez, le grand témoin de cette histoire, elle disait « J'ai suivi le mouvement sans me poser trop de questions parce que je suivais mon père, parce qu'il ne pouvait pas me compromettre. » On écoute un extrait avec elle dans une réception somptuaire.
« Plus tard, on nous traitera, mon père et moi, de salauds. de traître à la patrie, de collabo. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo? En allant à des cocktails? Peut-être. Je connaissais beaucoup de gens qui étaient là. Je les avais croisés avec mon père depuis que j'étais enfant. J'étais heureuse de revoir Suzanne et Otto. J'avais grandi avec eux. C'était irréel de se retrouver là, tous ensemble, sous les lustres. Il y avait beaucoup de monde à ces réceptions. Il y avait tout Paris même. Ce Paris des mondanités. Malgré la guerre, les restrictions. On y croisait des artistes, des journalistes, des affairistes, des chanteurs de charme. C'était the place to be, comme disent les Anglais. 78 rue Lille, dans les quartiers chics. Une ambassade accueillante, rassurante. L'art de recevoir à la française. Un chic moderne, mais factice.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un plan très giannolien. C'est un plan qui rappelle celui d'Illusion perdue, la description au théâtre avec cette voix off, d'ailleurs, qui rappelle aussi Scorsese, la description de la mafia, mais aussi, j'ai retrouvé ça, L'âge de l'innocence. C'est pareil, c'est des bulles.
Oui, oui, et ce dont elle parle, c'est ce qui m'excitait vraiment dans le film. Cette ambassade rue de Lille, on ne peut pas imaginer ce que ça a été. Y régnait Otto Abetz, ce francophile, ami de Luchère, lui aussi pacifiste, qui finit par être ambassadeur du Reich, et qui a organisé autour de lui une forme de cour, c'est le bon mot, où il y avait beaucoup d'écrivains. Et Rudolf Hahn, qui était un diplomate allemand, décrit cette ambassade en disant, cette ambassade nazie, il y régnait une atmosphère bohème. Donc on n'arrive pas à imaginer quelque chose qui peut avoir avec une atmosphère bohème et le régime nazi à Paris. Et c'est toute l'ambivalence et la complexité d'Otto Abetz aussi, qui lui était ami avec les écrivains, qui était ami avec les artistes, qui voulait protéger la culture française. Est-ce que c'est un calcul, une manipulation? Est-ce que c'est Machiavel? Ou est-ce qu'il avait une forme de sincérité? C'est une des questions que pose le film.
Filmer la décadence, vraiment, avec en référence, peut-être en arrière-plan, Monsieur Klein, là, cette fête dans le château, ou les damnés de Visconti.
Oui, ce sont des...
Pardon pour les références, elles sont pas mal quand même.
Il y a une allusion graphique à M. Klein.
Oui, oui. Pour un cinéaste, ce sont des références un peu écrasantes.
Oui.
Le générique du début de M. Klein est un, je ne sais pas si c'est un faucon, un pan, une tapisserie, voilà, avec des flèches, et je l'ai faite refaire pour la suspendre au-dessus du lit de Jean Luchère, parce que M. Klein a été pour moi un choc esthétique, les décors de Trôneur, et d'ailleurs il y a plein de détails, la couverture en fourrure, et cette idée de la beauté du mal, de la décadence, du luxe pendant l'occupation. Cette obscénité, qu'est-ce que ça nous dit de ce que sont les êtres?
C'est ça qui n'a pas été filmé avant. Jean-Pierre Bertin-Maguide, quand on pense à cette période-là, on pense bien sûr à l'armée des ombres, gris et froid, silencieux, contre le bruyant de ce film-là. Ça n'a pas été filmé, ça, encore, en France.
Non, mais ça évoque bien la manière dont les artistes vivaient à cette époque, c'est-à-dire que parmi les gens de cinéma, l'acteur ou l'actrice était confronté plus que les autres à leur médiatisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la limite entre vie professionnelle et vie privée se brouille complètement. Et bon, il faut qu'ils aillent aux premières de leurs films, il faut qu'ils se montrent dans les cocktails. Et donc, au début, on ne veut pas fréquenter les Allemands, mais on est bien obligé de les fréquenter puisqu'ils sont là partout. Donc, on les retrouve à Bagatelle, on les retrouve au Ritz, on les retrouve chez Maxime, on les retrouve pas au Rulle parce qu'ils arriveront plus tard.
Quand ils vont tourner là-bas, en plus.
Voilà. Donc, on est dans cette atmosphère-là. Et puis, surtout, on est aveuglé par le fait que le cinéma tourne à plein. Toutes les salles de cinéma ne désemplissent pas jusqu'à la fin 43.
Ah oui.
Plus il y a le théâtre qui fonctionne aussi. Donc ces acteurs-là, ils passent du cinéma au théâtre constamment.
Comment on explique que Corinne Luchère n'ait jamais tourné pour la Continentale, qui était la grande boîte de production allemande?
On ne l'explique pas.
On ne l'explique pas.
C'est un grand mystère, ce n'est pas le seul autour de Corinne Luchère.
Ouais.
Mais il y a un élément important, elle était malade, Corinne
Luchère. Oui, elle était malade.
On ne pouvait plus l'assurer, et c'était ça aussi le tragique de son destin.
Là, c'est un axe tragique remarquablement filmé, justement. Mm. C'est la tuberculose et les crachats de sang.
Oui.
Et cette métaphore, c'est le père qui apporte la tuberculose à sa fille.
Le goût du sang dans la bouche.
Quand même, ça dit beaucoup de choses.
Qui sera le goût de tout le monde dans la bouche. Dans
voilà. Ce genre, et on ne sollicite pas l'histoire. C'est
vrai.
C'est documenté.
Oui, oui. Mais le film montre bien cette évolution de la maladie qui va avec l'évolution de la moralité des personnages.
C'est toute l'idée, ou plutôt voilà. Le sentiment. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus que la maladie devienne comme ils savent qu'ils sont malades, et ils se disent après tout foutu pour foutu. Non, d'ailleurs, le réquisitoire, qui est une scène pour moi primordiale, génialement jouée, je trouve, par Philippe Torreton à la fin, où c'est le réquisitoire de Raymond Lindon, qui était le grand-père de Vincent Lindon, c'est un hasard. Il finit par dire que ça n'excuse rien. Il ne laisse d'ailleurs aucune chance, aucune excuse à Jean Luchaire.
C'est le grand contrepoint moral du film. Voilà. Le réquisitoire de Raymond Lindon, qui est aussi le père de Jérôme Lindon, le grand éditeur.
Oui.
Évidemment.
Ouais. Très important de... Justement, pour pas trop... engager une vision positive du personnage, quoi.
Non, moi j'aime ce personnage paradoxal. Je déteste notre époque où on juge sans nuance, où on condamne avec cruauté, on ne cherche pas à comprendre. Moi j'oppose à cette simplification idéologique et politique la complexité du roman, du cinéma, de l'art, qui est qu'un destin comme celui de Jean Luchaire, il est à la fois fait d'ombre et de rayons et de lumière.
Ce serait trop facile s'il n'était pas séduire.
Ça ne m'aurait pas intéressé.
Ça n'aurait eu aucun intérêt.
Vous n'auriez pas fait le portrait d'un autre collabo que lui, parce que c'est son attachement au cinéma, c'est son lien avec sa fille surtout, non?
Mais vous savez que Jean Luchaire était détesté par les collaborationnistes. Il le trouvait tiède, il le trouvait insincère. Il le trouvait opportuniste.
Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur de son journal. Hein.
Absolument. Louis Ferdinand dans Céline, cette scène incroyable, que j'ai découverte avec Louis Ferdinand Céline sous les lustres de l'ambassade d'Allemagne. Oui. Je n'ai pas envie de raconter ce qui s'y passe, mais quand j'ai lu ça, je n'arrivais pas à croire que ce soit vrai. Et il s'est effectivement passé ça. Le cinéma l'a tort un peu pour la prendre dans le mouvement du film. Mais non, Jean Luchaire, il a fini par habiter ses idées, par opportunisme, mais je ne crois pas qu'il ait été habité par ses idées.
Voilà. Puisqu'il n'est question du début à la fin du film que d'une tragédie, l'une des tragédies qui écrase Luchaire, c'est qu'il lance son journal d'avant-guerre, qui est donc un journal européiste. Il faut insister sur l'Europe, ça c'est capital, avec des gens comme Mendès France, Brossolette, etc. Et aussi quelques futurs collabos comme Paul Marion, ancien communiste. Non, il le lance en 1929. C'est tragique, parce qu'on sait maintenant que la crise de 1929 a eu des effets innombrables, économiques, mais surtout politiques et culturels, et que le parti nazi avant la crise de 1929, c'est un groupuscule. Deux ans après le début de la crise de 1929, c'est devenu un des grands partis allemands. Donc, tout le combat européen de Luchaire, pacifiste, alors laissons de côté provisoirement la dimension corrompue du personnage, est ruiné par le sens de l'histoire. Comme disait Georges Perec, l'histoire avec sa grande hache.
En exergue du livre que Cédric Méletta a consacré à Jean Luchaire, il y a cette phrase d'Eschyle, le père de la tragédie grecque. C'est un homme perdu dans les ténèbres du néant. Une fois là, plus de remède. Et le sous-titre du livre, c'est L'enfant perdu des années sombres. L'enfant perdu.
Oui, mais de toute façon, il est. Alors, Jean Luchaire est le fils de son père, ça arrive à des gens très bien. Bon, Julien. Mais Julien.
Non, mais ça.
Non, mais
ça
attendez, l'enfant perdu, c'est l'enfant de Julien Luchaire, le fondateur de la diplomatie culturelle. Les instituts culturels français à l'étranger viennent de son père. Oui. Le premier, qui en est très fier, l'Institut culturel de Florence.
Oui.
Jean est né à Sienne. Bon, c'est vraiment un homme de la rencontre de l'autre, de la diplomatie culturelle. Il a travaillé pour l'ancêtre de l'UNESCO, qui était déjà installé en France sous un autre nom, et ça accouche d'un quelqu'un qui est un Européen, un pacifiste, mais qui est par ailleurs quand même un homme qui souhaite arriver, qui ne souhaite pas surtout décliner, et à quel prix ?
Question aux historiens, encore une fois, c'est un sujet tabou, on peut le dire, ce film. Il y a eu d'autres sujets tabous, et notamment l'Algérie, qui n'est toujours pas vraiment appréhendée par le cinéma. Il y a eu des films... Mais c'est encore tabou.
Ça a commencé à bouger.
Comment on l'explique? Xavier Giannoli, d'ailleurs, ça vous dirait de faire un film sur, justement, aussi pareil, les compromissions pendant ou après le conflit avec l'Algérie?
Ça me passionnerait.
Oui.
Oui, absolument. Mais
parce que ça rejoint vos thématiques.
Vous savez, écrire ce film, ça a été 5 ou 6 ans de travail. Je ne remercierai jamais assez Cédric Méletta, ce livre génial qui est la biographie de Jean Luchaire, où on voit la boîte noire de la francitude s'ouvrir. Le cinéma, j'en peux plus, moi, du robinet d'eau tiède du cinéma bien-pensant, avec des clichés commerciaux où il faut filmer des figures de héros. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais. Cette idée que le cinéma, comme le roman, peut aller s'aventurer vers des zones contradictoires, vers un lieu où la morale affronte l'intérêt, où l'aveuglement politique libère des pulsions humaines comme l'appât d'argent, de sexe et de ces choses-là. Le cinéma américain raconte génialement ça, de Martin Scorsese à Stanley Kubrick. Moi, ce sont les gens ce sont les films qui m'ont formé, et ils ont conscience, ces films, que l'être humain peut être une force noire. Et c'est peut-être pour ça que ces films sont travaillés par quelque chose de puissant et d'essentiel. Et moi, avec mes moyens, j'essaye de m'aventurer sur à raconter de tels destins.
Et faire des films qui n'existent pas.
J'espère.
Ben oui. Pascal Horry, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, à titre personnel, si je me suis intéressé, c'est comme ça qu'on s'est croisé indirectement avec Xavier Giannoli à la période de l'occupation, c'est pour des raisons entièrement éthiques qui n'avaient rien à voir avec mes programmes universitaires. Mais parce qu'un soir, très précisément, dans les années 70, j'ai rencontré un collabo d'origine pacifiste, séduisant. Je ne donnerai pas son nom, mais ça a été le plus grand critique littéraire de la collaboration. Son fils a été un grand journaliste. Et je me suis dit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous raconte. Et c'est ça qui est intéressant.
Xavier Giannoli, vous avez reçu un appel avant cette émission, on peut en parler ou pas?
Écoutez, c'est totalement bouleversant pour moi, je vais le raconter brièvement. Ouais, ça fait des années que je travaille sur ce film. À la différence de mon film, la famille Luchère était plus grande. Bon, Corinne a eu une fille qui s'appelle Brigitte, on la voit dans le film, enfant. Elle est née au moment de Sigmaringen. Et je reçois, en venant, j'avais mon casque de vélo pour venir vous rejoindre, je reçois un mail de quelqu'un qui me dit « je suis le petit-fils de Jean Luchère ». Il y a un numéro de téléphone, j'appelle, et il y a une voix d'un monsieur, à l'évidence sensible et intelligent, qui m'explique que Corinne Luchère était sa tante. Et il me dit, des sanglots dans la voix, ce qui m'a totalement bouleversé, « D'abord, je veux vous dire que Brigitte vient de mourir. » Donc, si vous voulez, pour un cinéaste, l'idée que je redonne vie, et j'espère, je rends justice à la poésie et à l'émotion de Corinne Luchère, au moment où sa fille meurt, qu'on voit dans le film, c'est totalement bouleversant pour moi. Voilà. Et peut-être que le cinéma et la vie se fait de ça. Et il m'a dit aussi qu'elle est morte aveugle. Et on voit dans le film, au début, un portrait peint par le frère de Corinne Luchère, qui, figurez-vous, était le décorateur d'Un homme et une femme, de Claude Lelouch. Ils ont tous beaucoup travaillé dans le cinéma. Et elle a les yeux fermés sur ce portrait, qui est authentique, qu'on a trouvé chez un antiquaire. Et l'idée que sa fille meurt aveugle au moment où un film qui veut ouvrir les yeux sur sa... et que dans le film, on voit un portrait de sa mère les yeux fermés. Si vous voulez, je ne sais pas s'il y a des dieux du cinéma, mais...
Il y a des signes.
Mais j'espère que...
C'était la fille d'un officier allemand.
Et c'était la fille, c'est ce qu'on voit dans le film.
On voit dans le film, bien sûr. Non, mais je veux dire, ça alourdit un peu plus
de la Wehrmacht.
Sa barque,
Oui, d'un officier de la Wehrmacht. Mais elle le dit, vous savez... parmi toutes ces filles à qui des salauds raseront la tête, il y avait sûrement des vraies amoureuses. Voilà, c'est tout à fait mon point de vue sur la vie.
Parlons des acteurs de ce film, notamment de cette révélation. Nastia Golubeva, vous l'avez rencontrée comment?
Un casting, beaucoup de jeunes filles, un visage, un regard. Un miracle, pardon de parler avec des mots peut-être mièvres, mais quand on est metteur en scène, il ne peut pas vous arriver quelque chose de plus bouleversant que le visage de Nastia Golubeva. Elle a 20 ans, elle avait quasiment rien fait.
Comment vous avez cru en elle? Parce qu'elle allait porter un film de 3 heures sur les épaules.
Moi, et puis tous les investisseurs, c'est un très très gros film, c'est une fresque. Il y a évidemment Jean Dujardin, mais au centre, il y a cet inconnu. Et le mot qu'il a défini, elle est rare. Elle est la grâce incarnée, cette fille. Mais dans la vie, à l'écran, elle a fait un travail gigantesque d'implication dans le film, regardant comment on bougeait dans les années 40. C'est qui Corinne Luchère? En plus, Corinne Luchère, elle est le contraire d'un standard des années 40. Au contraire, c'était une fille libre.
Une modernité
extraordinaire. Et insolente.
Et que les actrices américaines mettent tout en haut.
On l'appelait la French Garbo.
C'est ça.
Voilà. Puis elle était cancellée. Vous savez, ce détail épouvantable, après, à la Libération, on grattait son nom sur la pellicule, parce qu'elle a été condamnée pour indignité nationale. Ils l'ont passée à tabac, ils l'ont humiliée, ils l'ont cancellée. On dirait aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Donc le film est aussi là pour lui rendre hommage. Et Nastia, elle a passé des essais, elle est la grâce incarnée, elle est le miracle cinégénique, je ne sais pas quoi vous dire.
Elle est Corinne Luchaire,
Je pense à elle et je suis bouleversé, voilà.
Sans idée de ressemblance, en plus.
Elle exprime l'âme de Corinne. On n'est pas dans un mimétisme idiot.
Et Jean Dujardin, c'était aussi pour une arrière-pensée positive autour de lui ?
Non, c'est un acteur génial, Jean Dujardin. Alors, comme il est une star populaire, la presse people, etc. Et puis, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je vois juste un acteur génial. Et l'idée qu'il m'ait dit sans arrêt, j'ai peur. Ce personnage me fait peur. Mmh. Il a mis du temps à y aller. Et il me disait, mais je veux le faire parce que j'ai peur. Mmh. Et que c'est mon métier d'acteur d'aller prendre sur moi, dans mes regards, dans mon corps, dans ma façon de bouger, ce que peut être une forme d'infamie. Et il a été d'une générosité extraordinaire, avec Nastia d'abord. Et en face de lui, il avait un autre acteur qui est un acteur énorme, qui s'appelle Auguste Dill, que vous avez peut-être vu dans Une vie cachée de Terrence Malick, ou chez Tarantino, ou au théâtre, ou dans plein de films. Et c'était l'acteur rêvé pour jouer Otto Abetz. Il y apporte humanité, complexité. Mmh. Il a grandi en France, donc il parle français quasiment sans accent, comme Otto Abetz, qui avait un accent quand même. Ouais. Mais, et puis je veux rendre hommage à Barbara Lembauer, qui a écrit cette sublime biographie de Otto Abetz, qui s'appelle Otto Abetz et les Français, l'envers de la collaboration. Grand livre.
Les rayons et les ombres, ce grand film sort mercredi prochain sur nos écrans. Merci Xavier Giannoli, Pascal Horry, Jean-Pierre Bertin, Maguite, vous restez avec nous. On se retrouve après Rosalia pour parler des films de ce mercredi.
On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer par le film le plus lucinien de la semaine. Victor comme tout le monde de Pascal Bonitzer, un projet de film de Sophie Filière qui est morte en 2023. Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu'il n'est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots, jusqu'au jour où réapparaît sa fille qu'il n'a pas vue grandir. Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu'admirer. J'allais avec des pieds de plomb, mais en fait, j'ai l'impression que c'est l'interprétation la plus sobre de Zucchini, alors que c'est le sujet qui lui touche au plus près.
Et oui, et qu'il, et qu'il joue son propre rôle.
Oui.
C'est là où est le paradoxe.
Oui.
Mais il n'est pas un paradoxe près. Enfin, il joue le rôle de Robert Zucchini, vous le disiez, Robert. On pense évidemment rien sur Robert.
Et c'est son vrai prénom.
Absolument. Et Zucchini, ça, c'est une invention de Bonitzer, parce que dans le film de Filière, enfin dans le scénario, il s'appelait Zucchini. Et on aime bien aussi cette petite, toute petite distance avec Zucchini, qui admire Hugo comme une brute. Ça faisait partie de ses admirations littéraires que Zucchini revendique, évidemment. Et puis ce confort-là est un jour bousculé par le retour et le regard de sa fille, qui conteste avec d'autres actrices, d'autres jeunes actrices, dont l'étonnante et la stupéfiante Suzanne de Bach, qu'il y a peut-être une différence entre Hugo l'homme et Hugo le poète. On est dans une pleine modernité, mais que Bonitzer assume avec malice, et Zucchini aussi, parce que Dieu sait si sur ce sujet il a des choses à dire. Bref, le bouleversement qui se passe dans la vie de Zucchini permet au personnage de Zucchini de se complexifier et de devenir extrêmement touchant à travers ce beau film.
Victor, comme tout le monde, ce qu'il reste de nous, de la réalisatrice palestino-américaine Cherianne Dabis, de 48 à nos jours, d'une belle demeure à Jaffa jusqu'à un camp de réfugiés en Cisjordanie, trois générations d'une famille palestinienne qui porte les espoirs et les blessures d'un peuple. Parfois, une seule scène peut raconter un film, et Dieu sait qu'elle a été filmée, cette situation. Un petit garçon palestinien assiste à l'humiliation dont est victime son père par trois jeunes soldats israéliens. Une seule scène pour finalement raconter ce qui va suivre, la honte, la rage, la colère d'un peuple. Le cinéma, mieux qu'un cours d'histoire pour ressentir ce sentiment qui traverse des générations, l'héritage traumatisant, même si dans le film, il est modéré par la résilience des parents, Laurent.
Oui, alors on peut être légitimement plus séduit par ce film que par Palestine 36, d'une autre réalisatrice palestinienne qui prenait, elle aussi, à bras-le-corps l'histoire palestinienne. Là, la modestie, en quelque sorte, du propos de Cherianne Dabis, qui concentre son propos sur une famille, est à mon avis plus efficace, avec cette scène centrale. Le film est en trois parties. La scène dont vous parlez, elle est au centre du film, et c'est pas pour rien. Jusque-là, je dirais vraiment que le film a une grande, grande intensité. Moi, j'aurais plus de réserve sur la troisième partie, où le film bascule un peu dans une sorte de pathos plutôt mal maîtrisé, et c'est un peu dommage par rapport effectivement au reste de la force du propos.
Enfin, sur l'héritage du traumatisme, c'est très fort. Le testament d'Anne Lys.
On est en train d'oublier Le crime du troisième étage.
Oula, mon Dieu. Alors, Le crime du troisième étage, qu'est-ce que c'est que ce film ?
Le troisième étage, le film de Rémi
Besançon. Oui, de Rémi Besançon.
Oui.
Colette, professeure de cinéma, c'est Laetitia Casta, spécialisée dans l'œuvre d'Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d'en face, Guillaume Gallienne, d'avoir tué sa femme. Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuet, d'abord sceptique face à l'obsession de Colette pour ce prétendu crime, il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque. Bon. Référence à Hitchcock, of course, Woody Allen, Lubitsch, rien que ça, savoureux ou artificiel, Laurent ?
C'est l'histoire d'un type, Rémi Besançon, qui s'est dit un matin, tiens, je vais faire une adaptation du chef-d'œuvre d'Hitchcock, Fenêtre sur cour, en y ajoutant, tant qu'on y est, un peu du délicieux, le magnifique de Philippe de Broca. Alors, et cerise sur le gâteau, cet improbable gâteau en tous les cas, Gilles Lelouch jouera James Stewart et Jean-Paul Belmondo, tandis que Laetitia Casta coulera dans les habits de Grace Kelly et Jacqueline Bisset, bien évidemment. Bon, peut-être que ce jour-là, Rémi Besançon n'aurait pas dû se lever, n'aurait pas dû décider qu'il allait faire son film.
N'aurait pas dû fumer.
Je crois que Xavier Angeli a une chose à préciser.
Je voudrais juste dire que Zucchini est un génie.
Oui.
D'accord.
C'est un acteur extraordinaire.
Ouais.
Et il faut aller voir ce film. Parce que Zucchini, c'est quelqu'un de rare, de précieux, d'insolent, de libre.
Vous ne l'avez jamais fait tourner ?
Non, mais j'en ai vraiment envie.
Ouais. Le testament d'Annie, comédie musicale et premier film à sortir en France de Mona Fastvold. Fin 18e à Manchester, l'histoire vraie d'Anne Lee, fondatrice du culte religieux connu sous le nom des Shakers. C'est une communauté dissidente de l'église anglicane en transe pour expier leur péché. Cette prophétesse passionnée qui prêchait l'égalité entre les genres et la justice sociale était adorée par ses fidèles. Un biopic radical, ambitieux, extatique, un peu comme son héroïne, Laurent.
Oui, alors 137 minutes sur une secte protestante qui mêle Quaker et Checker. Pourquoi pas, évidemment, mais pourquoi ? On peut aussi se poser la question dans l'autre sens. Dès lors que la réalisation se fond littéralement dans les pratiques religieuses, dans ces pratiques religieuses pour le moins radicales, et qui conduiront d'ailleurs à l'extinction de la dite secte. Le principe de l'immersion totale prive la réalisatrice du moindre regard critique, de la moindre distance. Alors on est forcé d'adhérer à cette comédie musicale d'un drôle de genre. On peut aussi peut-être ne pas rentrer dans la danse.
La traque de Meral, troisième film, le premier également à sortir en France, de Stine Bouma. Meral, une mère célibataire néerlandaise d'origine turque, est accusée à tort de fraude fiscale et contrainte de rembourser 34 000 euros d'allocation familiale. En fait, c'est un scandale qui a vraiment eu lieu aux Pays-Bas et pour le prétexte de lutter contre la fraude fiscale qui a précarisé la vie de milliers de familles. Là.
Oui, oui, et le départ de ces familles du pays, l'histoire est sidérante. Ce qui est raconté est absolument sidérant. Je pense qu'il faut l'écouter, surtout en ce moment, puisque apparemment les politiques d'immigration s'exportent oui. aisément. Alors, c'est un dossier et c'est traité comme ça, mais avec une cinématographie réelle d'enfermement. Plus le personnage est criblé de flèches administratives, plus l'enfermement est là et c'est assez beau.
Orphelin du cinéaste hongrois Laszlo Nemes. Budapest 1957, après l'échec de l'insurrection contre le régime communiste, Andorre, un jeune garçon juif vit seul avec sa mère Clara qu'il élève dans le souvenir de son mari disparu dans les camps. Mais quand un homme rustre et interprété par Grégory Gadebois, tout juste arrivé de la campagne, prétend être son vrai père, le monde d'Andorre vole soudain en éclats. C'est ce qui est arrivé au père et à la grand-mère du cinéaste et malgré ses racines a priori émouvantes, un récit teinté d'académisme, Laurent.
Oui, parce que le film d'abord semble s'inscrire dans la réflexion que Nemes avait entamée avec le fils de Saul sur la Shoah, sa représentation, etc. Mais rapidement, il bifurque vers un récit d'apprentissage, à mes yeux, beaucoup plus banal, dans lequel vient s'inscrire assez curieusement Grégory Gadebois et son presque éternel rôle de personnage rustre. Mais pas tant. S'ensuit un film, effectivement, vous le disiez, assez esthétisant, qui frise avec l'académisme, figé dans sa propre logique, et qui enferme le spectateur.
Le bel alien de la semaine s'appelle Planète, premier film de la japonaise Momoko Seto. On a tous petit soufflé sur des graines de pissenlit, elle en a imaginé
là,
quatre.
Continue,
rescapées d'explosions nucléaires qui détruisent la Terre, elles se trouvent projetées dans le cosmos. Après s'être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d'un sol propice à la survie de leur espèce. 9 mois de tournage entre l'Islande, le Japon et la France, un vrai récit de survie scientifique, surréaliste, poétique, entre prise de vue réelle et animation en 3D. 4 graines à la recherche d'une Terre habitable qui côtoie des calamars lucioles, une mante religieuse effrayante, des 1000 pattes et des limaces, et de merveilleuses ambiances sonores d'un maître du genre, nous l'avions reçu, Nicolas Becker, à voir à tous les âges de la vie.
Oui, moi j'ai un peu de mal avec l'anthropomorphisme, hein, donc j'ai un peu de mal avec ça. Et puis,
même
je me souviens,
avec des pissenlits.
Même avec des pissenlits, surtout avec des pissenlits sur lesquels je continue de souffler, évidemment. Mais je me souviens quand même, parce qu'il faut leur rendre hommage, qu'il y a 20 ans, Hélène Giraud et Thomas Zabo, avec Minuscule, disaient à peu près la même chose et surtout utilisaient les mêmes technologies entre la 3D et les prises de vue réelles.
Allons voir les deux. Prénom de la cinéaste franco-israélienne Nourit Aviv. Le prénom est un don, un choix, un message qu'on peut questionner, interpréter, réinventer tout au long de sa vie. Elle a demandé à plusieurs personnes de raconter leur prénom, et notamment par rapport à la grande histoire, la colonisation, la Shoah, le communisme et 68, ou la répression de Tiananmen, Laurent.
Merveille, merveille, parce qu'effectivement, on le sait bien tous, y compris autour de cette table, ben le prénom et les prénoms sont importants. Ils disent bien plus que ce qu'on croit, bien plus que peut-être ce qu'on voudrait parfois, et puis on en fait autre chose soi-même. Et franchement, ce qui se dit, ce qui se montre, ce qui se raconte dans ce film de Nourit Aviv, prénom est formidable.
Si vous connaissez l'origine de votre prénom, Xavier.
Oui, tout va vers un village corse.
C'est un peu corse.
Non, c'est un nom basque qui signifie Maisonneuve.
Ouais, ouais, oui.
Alors, Pascal, c'est relatif à la Pâque, né à Pâques. Jean-Pierre, c'est
voilà.
Celui que Dieu favorise. Voilà, c'est dit. 40 ans après sa sortie, une grande reprise, Antoine Ilois, Agnès Varda.
Oui, bah, dont on est toujours bluffé par notamment la façon qu'a Agnès Varda d'articuler son récit avec des plans-séquences qui se passent le relais de l'un à l'autre. C'est sidérant à la fois de cinéma et puis le discours social aussi que ça porte.
Et une énorme actrice, immense actrice,
bien
Sandrine
évidemment.
Bonner. Un cycle Wong Kar-wai.
Est-ce qu'il faut présenter Wong Kar-wai et dire qu'il faut revoir surtout sur grand écran ses chefs-d'œuvre. Il y a des films un peu moins connus qui sont aussi présentés et ça vaut évidemment toujours le coup.
Et les films intemporels de Claude Sautet.
Et les films intemporels de Claude Sautet parce que c'est toujours une merveille et qu'on est baba et que Xavier Jeannely fait le signe de croix, je ne sais pas.
Dont un qui est moins connu, qui est Classe to Risk.
Ah, un polar du début.
Il y a un film que je regardais beaucoup avec Jean Dujardin pour faire mon film là, qui est Mado.
Ah, oui. Merveille.
Et qui est avec Michel Piccoli. Les silences, le tumulte de cet homme, la scène de toute cette société qui est dans la boue à la fin. C'est un chef-d'œuvre méconnu. Hein. Mado, au début, il voulait adapter Buzzati. Et Claude Sauté, moi, j'ai tout appris en regardant ces films, mais vraiment 50 fois chacun sur les temps des regards, sur cette ligne de dialogue qui n'est pas du naturalisme, mais qui n'est pas non plus littéraire. Il faisait des films d'action humaine. Il était obsédé par le cinéma américain et la rapidité, et la musique, évidemment. Ouais. Et en même temps, il raconte des histoires de sentiments. Et il le faisait avec une Nelly et Monsieur Arnaud. C'est pour moi un très 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 grand film.
Crépusculaire. Et la musique de Mado, signée Philippe Sard, est une.
Philippe Sard.
À peine une minute pour trois cadeaux. Oui, ça,
alors, pour vous, Xavier Giannoli, tiens, vous, je crois que vous intéressez à la presse. On pense hein, les hommes du président. chez Warner en coffret.
Oui, mais c'est une nouvelle copie.
Oui, 4K, oui. 4K ultra avec beaucoup de bonus. Je pense que vous allez vous régaler. Pour vous, Pascal Horry, vous êtes aussi quand même un peu forcément l'historien du présent. Et on avait songé à ce film documentaire L'Invasion. De Sergueï Lonitsa sur l'Ukraine, qui est sorti récemment.
L'Ukraine qui est présente dans le film, mais on n'expliquera pas.
On n'expliquera pas pourquoi, on n'aura pas le temps. C'est chez Potemkin et on vous recommande chaudement si vous n'avez pas vu ce documentaire. Et puis un autre Sergueï Lonitsa, mais pour absolument. Le coup, côté de la fiction, Deux procureurs. C'est un récit glaçant sur le stalinisme et sur la justice sous Staline. Voilà, on passe de l'autre côté du rideau de fer, en quelque sorte.
Merci à tous les trois. Merci Xavier vraiment. Giannoli, merci Pascal Horry et merci Jean-Pierre Bertin, Maguit. Et ce film, Les rayons et les ombres, sera sur nos écrans mercredi prochain. Merci à notre équipe. Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Dussy à la préparation, Thierry Dupin pour la programmation musicale et aux manettes ce matin, Sybille Clamins. Merci. Au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.